Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jérémy Chardy. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, il avait 13 ans et moi 14. On était deux jeunes espoirs du tennis français. Il était timide, un peu à part. Il travaillait dans son coin avec son entraîneur de l'époque, sur lequel il se livre avec émotion dans cet épisode. Comme le reste du monde du tennis, il est en stand-by, il en profite pour découvrir les joies de la paternité avant de retrouver le chemin des tournois. Du coup, on a replongé dans ses souvenirs. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Salut Jérémy Chardy.
Salut.
La tradition veut maintenant que je te pose cette question. Est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie ?
On se tutoie, on se connaît depuis assez longtemps.
Déjà, première question, comment vas-tu ?
Écoute, je vais bien. Je profite à la maison avec mon bébé et la famille.
Donc, tu es papa depuis quand ?
Je suis papa depuis le 12 février. Il est né le même jour que moi, donc c'était mon plus grand souhait et il a été exaucé. Donc, j'étais ravi qu'il arrive pour mon anniversaire.
Je reviendrai sur la paternité, comment être père et joueur de tennis professionnel en même temps. Dans cette émission, il y a d'abord une première partie, je dirais, biographique. Puis après, on parlera bien sûr de tennis actuel, car ça nous manque énormément. Mais pour commencer, comment Jérémy Chardy est venu au tennis ?
En fait, je suis venu au tennis parce que ma maman est présidente du petit club de mon village où on a deux cours juste à côté de la maison et ma sœur jouait au tennis aussi et du coup j'ai commencé à aller avec eux au club à taper contre le mur et puis ma sœur a commencé à me faire jouer petit à petit et c'est comme ça que j'ai commencé le tennis à côté de la maison.
À côté de Pau, c'est ça?
Ouais, dans un petit village, c'est Bois-Bezin, on doit être 1000 habitants, donc on n'est pas nombreux.
Tout de suite, tu sens que tu as envie de faire de la compétition, que ça te plaît, est-ce que tu es tout de suite bon ?
Mais en fait, j'adorais jouer. La compétition, j'aimais pas ça du tout quand j'étais petit, parce que je jouais au foot aussi en même temps, et j'adorais jouer au foot, j'adorais faire les matchs, être en équipe et tout ça. Au tennis, quand j'ai commencé à faire des tournois de tennis, j'étais vraiment très stressé. Il y avait des moments où je me rendais malade même, je vomissais avant tous mes matchs. C'était difficile pour moi au début là, d'aller faire des tournois. J'avais l'impression d'être un peu jugé à chaque fois et j'étais vraiment tendu. Donc je prenais pas beaucoup de plaisir à faire des matchs, mais je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner et jouer au tennis. J'adorais ça.
Comment tu as réussi à régler ce problème de nervosité en match ?
Moi, je pense que ça s'est fait petit à petit. Je pense aussi en progressant, quand j'ai commencé à faire des matchs plus régulièrement, à gagner aussi des matchs. Ça donne envie d'y retourner, de regagner des matchs. Je pense que ça s'est fait petit à petit, mais ça a mis quand même pas mal de temps. Hein. C'est pas fait du jour au lendemain parce que je me souviens, les premiers rassemblements... que j'ai eu avec soit la ligue ou soit la fédération, c'était les pires moments pour moi. j'essayais de les rater, j'essayais toujours de trouver des excuses pour pas y aller, donc le début c'était pas si simple que ça.
D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu, c'était pendant un de ces rassemblements par la fédération, c'était au Pôle France de Poitiers. Je crois que c'est
Exactement.
La première fois que je t'avais vu, on devait avoir moi 14 et toi 13 ou un truc comme ça.
C'était le moment en plus où c'était vraiment là où j'ai commencé vraiment à aimer de plus en plus le tennis à cet âge-là et à mettre beaucoup plus dans la compétition aussi.
Est-ce qu'il y a eu des personnes spéciales dans ton parcours qui t'ont aidé à arriver au plus haut niveau ?
De toute façon, je pense que toutes les personnes qui ont été dans ma carrière, ils m'ont quand même aidé. Mon premier entraîneur de tennis, avec lui, on jouait beaucoup. C'était vraiment pour moi un jeu le tennis. Et, Et tous les entraînements qu'on faisait, il a réussi à me les garder ludiques. Et du coup, c'est pour ça que j'aimais aller m'entraîner. Parce qu'au début, je trouve que c'est parfois un peu difficile, le tennis, quand tu fais que de la technique et que tu apprends à jouer. Des fois, ça devient un peu... c'est pas très ludique, donc des fois tu peux te lasser un peu vite et lui il m'a donné un peu l'amour du jeu, donc ça c'était bien. Après j'ai eu deux autres entraîneurs avant de passer avec mon entraîneur où je suis resté très longtemps, Frédéric Fontan. On est resté 12 ans ensemble, même si ça s'est malheureusement très mal fini entre nous. Il m'a beaucoup aidé, voilà, pendant cette période là c'était un peu comme un deuxième père pour moi. Ça a été par la suite le pire moment de ma vie quand on s'est séparé et que ça s'est très mal passé. Mais il m'a beaucoup aidé. J'étais aussi entouré d'une équipe quand j'étais à Pau, parce que je suis toujours resté à Pau chez moi. Donc du coup j'avais un préparateur physique et il y avait un cabinet avec trois différents kinés aussi qui s'occupaient de moi. Donc je les voyais tous les jours et ils ont voyagé aussi avec moi. Donc voilà, j'avais créé une petite équipe autour de moi qui m'a accompagné de l'âge de 12 ans jusqu'à mes 21, 22 ans. Donc j'ai toujours été avec eux et ils m'ont formé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, je pense, parce que quand t'es petit, t'évolues chaque année. Donc voilà, j'avais une belle équipe autour de moi et ils m'ont beaucoup aidé. Par la suite, il y a un de mes kinés, Jean-Jacques Peyroutou, qui est resté aussi avec moi et qui a continué toute ma carrière avec moi. Et on a arrêté juste il y a 2 ans parce qu'il a décidé de partir à la retraite et de profiter un peu avec sa femme. Parce que voilà, les voyages, c'est sympa, mais parfois aussi, ça devient un peu difficile. Mais voilà, c'était une belle période avec beaucoup de gens qui se sont investis autour de moi. Puis après, je suis passé avec Patrick Mouratoglou.
Ouais.
Voilà, je suis resté un an avec lui et il m'a. Quand j'ai été avec Patrick, c'était la période la plus difficile pour moi parce que, comme je te l'ai dit, c'était le moment où je me suis séparé de Frédéric, mon entraîneur de toujours.
Avant de parler de Patrick, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé avec Fred ou pas?
Ouais, c'était une période très difficile parce qu'on s'est on a décidé d'arrêter après l'Open d'Australie, à l'Open d'Australie. Et ça s'est plutôt bien passé quand on a arrêté, on était très tristes tous les deux, je me souviens parce que j'ai pleuré dans ses bras. C'était vraiment un moment difficile pour moi et pour lui aussi parce que c'était beaucoup d'années de travail. Après ça a été plus compliqué. J'ai toujours pas vraiment compris ce qui s'était passé par la suite parce qu'en 2-3 semaines tout ce qu'on s'était dit, tout ce qu'on s'était mis d'accord, tout a changé et là c'est devenu après, pour moi, le moment le plus difficile de ma vie, je dirais, parce que j'ai vécu un an après où j'étais vraiment triste, je pleurais tous les jours et c'était un des plus mauvais souvenirs de ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir été trahi par la personne à qui j'avais le plus confiance et du coup, toutes les choses ont été remises en question dans ma tête au niveau de l'amitié, des gens qui étaient autour de moi, de la confiance. Et du coup, j'étais pendant plus d'un an, j'étais un peu perdu et je me suis isolé. Et j'étais vraiment seul, à part avec ma famille et les personnes très, très proches de moi. Mais après, je me suis renfermé sur moi-même pendant un très long moment.
Ça a changé ton rapport aux autres?
Pendant très longtemps, ça a changé mon rapport aux autres. Et c'est vrai que ça, maintenant, depuis cette période, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens avant de me livrer et de vraiment faire entrer quelqu'un dans mon cercle. C'est difficile pour moi depuis ce jour-là parce que quand j'étais plus petit, je voyais un peu la vie comme si c'était un peu les bisounours. Tout était beau, tout était magique et j'étais peut-être trop innocent, mais je faisais vite confiance et je pouvais faire entrer des gens plus rapidement dans mon cercle. Autant depuis cette période-là, c'est difficile pour moi de donner ma confiance, c'est très difficile.
Et donc, tu disais, l'année d'après, tu travailles avec Patrick Mouratoglou.
Oui, j'ai travaillé avec Patrick. Voilà, il m'a, cette période-là, quand je t'ai dit, c'était la plus difficile de ma carrière. Et Patrick m'a beaucoup aidé parce que, comme j'étais vraiment pas bien mentalement, et que du coup, je jouais pas bien parce que, parce que c'est difficile de bien jouer quand on n'est pas heureux en dehors. Il m'a beaucoup aidé parce qu'on a travaillé très dur pendant cette année-là. Je savais que les résultats allaient être difficiles à faire, mais tous les jours on s'est entraîné dur. Il m'a aidé à rester positif, à me motiver, à me donner des objectifs. Et cette année-là, même si j'ai pas eu les résultats que j'aurais aimé, ouais. Je pense qu'elle m'a fait progresser et elle m'a fait beaucoup grandir aussi. Et donc j'ai appris beaucoup de choses quand même pendant cette période.
C'est marrant pour quelqu'un qui nous dit qu'il avait des problèmes de nervosité en compétition et tout ça, parce que tu as quand même connu des succès assez rapidement, que ce soit en junior et puis même quand tu arrives sur le circuit principal, non ?
Ouais, c'était. Mais en fait, c'était assez rapidement, parce que, comme je t'ai dit, à partir de 12 ans, c'est là où je me suis mis à jouer plus au tennis. Mmh. Parce que. Avant, je jouais beaucoup au foot. Je jouais 3 fois par semaine au foot et le match le week-end. Donc, je jouais 4 fois par semaine au foot et je jouais 2 à 3 fois au tennis par semaine. Et puis, petit à petit, ça basculait jusqu'à mes 14 ans où après, à 14 ans, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à jouer au tennis tous les jours. Et c'est là où j'ai vraiment progressé. Et puis après, je pense que la confiance est venue dans le fait où j'ai commencé à sentir que je jouais de mieux en mieux et j'ai ouais. commencé à gagner beaucoup plus de matchs et j'ai commencé à sentir que je maîtrisais plus ce que je faisais et du coup, petit à petit, je me suis senti de plus en plus à l'aise et après, oui, c'est vrai qu'en junior, j'ai eu la chance de bien jouer. Mm-hmm. La première année, j'avais fait demi à Wimbledon, donc ça m'avait donné des gros objectifs pour ma dernière année de junior. Mmh. Et puis après j'ai gagné Wimbledon et j'ai fait finale à l'US Open. Je me souviens la finale de l'US Open c'était difficile parce que si je gagnais ce match j'étais champion du monde et j'ai pas fait le meilleur match que j'aurais
perdu contre Ryan Sweeting.
Exactement, c'était dommage parce que à l'époque c'était un bon joueur mais c'était pas il était loin d'être dans les meilleurs donc c'était une bonne opportunité pour moi.
Et puis après c'est pas ta première participation à Roland Garros, c'est parce que c'était en 2006 ça, où tu bats Björkman. Mais après il y a en 2008, tu passes le premier tour et tu bats en 5-7 Nalbandian qui était tête de série numéro 6. C'est incroyable ça. En étant mené 2-7-0 en plus.
Ouais, ça pour le coup c'est je pense le meilleur souvenir de ma carrière.
Ah c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, parce que j'étais à l'époque j'étais 180, 190e mondial.
Je crois ouais 150 un truc comme ça.
Ouais voilà et du coup je suis arrivé à Roland Garros, j'avais eu une wildcard, t'attends pas forcément de bien jouer et c'était chaque match que tu peux gagner c'est déjà une belle performance.
Bien sûr.
Et j'avais battu Nalbandian en étant mené de 7-0 et je gagnais en 5-7 avec une super ambiance sur Roland.
C'était pas sur le court numéro 2 ?
Exactement, ouais.
Je me suis rendu à la télé.
Et y a eu, c'est la première fois que je vivais aussi une si belle ambiance sur le court.
Ouais.
Et puis après, derrière, j'ai fait 8e et après Roland-Garros, du coup, je suis rentré dans les 100 premiers puisque j'ai fini la semaine après Roland-Garros, j'étais 94e.
Exact.
Donc c'est le plus beau moment parce que du coup je fais mon plus beau résultat, je bats un gars qui est 6e mondial et puis je finis dans les 100. C'est un objectif pour tous les joueurs, c'est t'as envie de rentrer dans les 100, donc c'est un moment que tu te rappelles toujours. Je disais c'est marrant parce que tu vois c'est un de mes meilleurs souvenirs à Roland Garros et ce qui est très étrange c'est que quand j'ai commencé la saison, je jouais très très bien à l'entraînement et je jouais à un super niveau de jeu, j'avais l'impression d'avoir passé un cap. Et en match, j'enchaînais les défaites et j'ai eu une période où c'était très dur parce que je faisais que perdre au début de cette saison-là. Et j'ai fait finale à Marrakech d'un gros challenger contre Gaël Monfils en finale. Et à partir de là, tout a changé et j'ai enchaîné avec la huitième à Roland. Et donc voilà, des fois, il y a des périodes où tu joues très bien, mais il faut quand même un petit temps avant de gagner. Donc ça se fait pas toujours tout de suite.
Tu as parlé de cet objectif de rentrer dans les 100. Pourquoi c'est si important, cette barrière symbolique des 100 premiers mondiaux pour les joueurs de tennis?
Je pense que on met un peu trop d'importance aussi à cette barrière des 100 premiers. Je pense que c'est très important parce que c'est à partir de, quand tu rentres dans les 100, tu peux jouer sur le tour, tu peux jouer tous les tournois sur le tour, tu peux jouer les grands chelems. Donc au début, quand tu commences le tennis et que tu as envie de devenir un joueur professionnel, tu as envie de jouer les plus gros tournois. Donc c'est pour ça qu'on met les 100 comme une barrière très importante. Mais parfois aussi, je pense que le fait qu'on mette cette barrière-là, il y a beaucoup de joueurs, je le vois en challenger, qui jouent très bien en tennis, qui sont pas loin de rentrer dans les 100. Et le fait de vouloir tellement rentrer dans les 100, des fois, ça les bloque et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Et alors qu'ils ont déjà le niveau de jeu pour être dans les 100 en premier, donc c'est une barrière psychologique qui est là pour tous les joueurs, je pense. Et voilà, il faut essayer de pas perdre trop de temps et surtout pas perdre trop d'énergie à penser aux points et au fait de rentrer dans les 100 et plus être concentré sur le jeu et ce que tu vas faire.
Dans ta carrière, tu as été au mieux 25e mondial, au moins 8e de finaliste dans tous les grands chelems, avec en plus un quart de finale à l'Open d'Australie en 2013, avec une magnifique victoire en 5-7 contre Juan Martín del Potro au troisième tour. Est-ce que c'est pas ça aussi un très bon moment et un très bon souvenir?
Oui, c'est sûr que à l'Australie, c'était un très très beau souvenir. Et quart de finale, c'est, comme tu l'as dit, c'est mon meilleur résultat. Donc et puis chaque fois que tu arrives à être en deuxième semaine d'un grand chelem, c'est déjà un super résultat, parce que tous les matchs sont difficiles à gagner en grand chelem. Et plus tu passes, chaque fois que tu passes des tours, tu joues des joueurs de plus en plus forts. Et je vais te raconter une petite anecdote qui est assez marrante. C'est que je joue mon premier match à Brisbane. Je perds au premier tour. Je joue mon deuxième tournoi à Sydney. Je perds au premier tour. Et je m'entraîne avec Mika Lyodra. Et en fait, je sais pas ce qui m'arrive. Je vrille complet et je casse une raquette. Je casse une deuxième raquette. Je casse une troisième raquette. Et là, mon coach s'énerve parce qu'on on s'engueule. Et il casse les raquettes qui me restent dans mon sac. Et j'ai plus de raquettes.
OK.
Et j'ai plus de raquettes. Et là, je joue plus au tennis pendant du mardi qui précède le tournoi jusqu'au samedi, jusqu'à que je reçoive des nouvelles raquettes. Et j'ai retapé pour la première fois la veille de jouer mon match à l'Open d'Australie. Et je fais quart, donc c'est pour montrer que parfois le tennis, c'est pas une logique implacable.
Il n'y a pas de secret, faut pas s'entraîner pour bien jouer.
Non, il faut s'entraîner, ça. Il faut s'entraîner dur, mais là pour le coup, je pense que ça m'avait fait du bien. Je casse jamais de raquette, et c'est la seule fois de ma carrière où j'ai complètement vrillé comme ça, parce que je pense que sur toute ma carrière, j'ai très peu cassé de raquettes. Je me souviens même pas des fois où j'ai cassé de raquettes en match, presque jamais.
Ouais, t'es un joueur plutôt calme sur le terrain.
Ouais, d'apparence peut-être, mais intérieur parfois ça boue comme tout le monde. Mais oui, j'essaie de me contrôler. Après, je pense que j'ai jamais cassé mes raquettes, parce que quand j'étais petit, je prenais vraiment soin de mes raquettes parce que j'en avais pas beaucoup et je voulais pas les casser, parce que c'était mes parents qui les achetaient, donc je faisais attention à mes raquettes. J'ai toujours essayé de prendre très soin de mon matériel, donc même si maintenant je peux en avoir autant que je veux, j'essaie quand même toujours de respecter mon matériel.
Donc il y a cette préparation un petit peu atypique avant cet Open d'Australie en 2013, et après je parlais de ce troisième tour contre Juan Martín del Potro. Quel souvenir t'en gardes?
J'en garde que j'ai très très bien commencé le match. Je me sentais très bien. Je menais 2-7-0 et je jouais vraiment très très bien et je me fais break à 4 partout au troisième set. Et je perds le troisième set, et là il y a un moment où le match ben, rebascule dans l'autre sens parce qu'il commence à trouver des solutions et je me retrouve à 2-7 partout.
Okay.
Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai jamais paniqué pendant ce match-là parce que je me sentais vraiment très, très bien. Je sentais que je maîtrisais vraiment mon jeu. Il y a des jours comme ça où tu te sens vraiment bien. Et du coup, j'ai toujours cru que j'avais une chance de gagner. Et, ouais. Et au final, j'arrive à gagner en 5-7. Donc, c'est un très bon match pour moi parce que je pense que j'ai joué très constant du début jusqu'à la fin du match, ce qui est parfois pas toujours mon cas d'être constant. Donc c'était un match complet pour moi et en plus lui c'était un des meilleurs joueurs du monde. Donc
c'est un 7e mondial à l'époque.
Voilà, de le battre en 5-7 en grand chelem, ça m'a fait beaucoup de bien pour la confiance et pour la suite du tournoi. Je pense que c'est grâce à ce match que j'ai aussi bien joué par la suite du tournoi.
Tu l'as dit, tu avais l'impression de vraiment maîtriser ton jeu et tu dis, moi je peux être un peu irrégulier. C'est vrai que j'ai le souvenir où c'était très très clair ce que tu faisais sur le terrain. C'est-à-dire qu'en revers, tu slicais beaucoup. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et en plus, tu le faisais très très bien. Et alors, dès que tu pouvais, tu te décalais et tu faisais mal avec ton coup droit. C'était, tu vois, c'était très très clair. Tu te souviens de ça, de ces sentiments-là?
Ouais, c'était... En fait, j'avais une tactique très précise avant de rentrer sur le court.
C'était
quoi? Je pense que c'était justement ça. C'était d'essayer de lui casser le rythme et en revers, j'essayais de avec mon slice, j'essayais de faire des slices un peu courts pour qu'il déjà parce qu'il est très grand donc pour qu'il aille jouer en bas. Et puis surtout qu'il rentre un peu sur le court parce qu'il vient très rarement en filet et du coup j'essayais de le faire un peu avancer pour le faire reculer parce que c'est un joueur qui aime bien une fois qu'il a trouvé sa ligne et sa zone de confort il se déplace bien et il est très fort donc j'essayais de changer à chaque fois de le faire rentrer, de le faire reculer et de trouver des angles aussi à chaque fois donc ma tactique a été très très claire et que dès que je pouvais me décaler en coup droit j'allais toujours dans le trou en fait. Je me souviens que je m'étais dit toujours dans l'espace qui est ouvert pour le faire se déplacer. Et en fait, parfois c'est bien d'avoir une tactique aussi claire parce que du coup tu sais exactement ce que t'as envie de faire et tu en plus au début du match ça a marché donc j'ai jamais lâché cette tactique du début jusqu'à la fin.
Bon, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si un jour ils veulent battre Juan Martín del Potro, vous savez ce qu'il faut faire.
Je ne l'ai pas battu à chaque fois.
J'ai parlé un peu de tes résultats, de ton meilleur classement. Aujourd'hui, quels sont encore tes objectifs?
Mes objectifs, c'est déjà c'est une période un peu plus différente dans ma carrière parce que je m'approche de la fin de ma carrière. J'ai quand même 33 ans. Pour moi, ce qui est important, je dirais que cette période-là, c'est plus la période de ma carrière qui est vraiment que pour moi. Parce que quand t'es plus jeune, je trouve que tu joues toujours un peu plus aussi pour les autres, pour ton équipe, pour ma famille et tout ça. Là, c'est vraiment une partie de ma carrière où je joue vraiment pour moi, pour me faire plaisir. J'adore jouer au tennis. Et je pense que tant que je me ferai plaisir, je continuerai à jouer. Et là, mes objectifs, c'est d'essayer de bien jouer sur des gros tournois parce que c'est ce que j'adore, essayer de bien jouer en Grand Chelem ou en Master. Si je peux faire un dernier gros résultat, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, me faire plaisir, essayer pourquoi pas d'avoir peut-être mon meilleur classement avant la fin, on ne sait jamais. Je me sens bien physiquement, dans la tête, je suis bien. Le fait d'avoir eu mon bébé, ça m'a aidé aussi à me motiver parce que j'aimerais bien qu'il me voit jouer. Donc, ça me donne envie de continuer encore quelques années. Donc, voilà.
J'adore, sur la réponse précédente, tu commençais à reparler de tennis, à parler de slice, de coup droit. Ça, ça nous manque, je trouve. Donc, on va essayer de continuer à en parler. On va parler un petit peu d'actualité. Il y a eu beaucoup de choses pendant cette période, des nouvelles compétitions, des déclarations. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Mais déjà, comment le joueur de tennis que tu es a vécu cette situation du Covid-19 et du confinement?
Alors, en termes sur le tennis, ça a été, j'étais pas motivé du tout. Ça a été très difficile pour moi parce que au tout début du confinement, j'arrivais même pas à motiver pour aller m'entraîner, à essayer de faire du physique et tout ça, parce que le fait d'avoir aucune date, aucun objectif, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Et en fait, ça m'a complètement démotivé parce que j'avais trouvé aucune source de motivation pour sortir, ouais, aller faire mon cardio ou un truc comme ça. Donc, les trois premières semaines du confinement, j'ai rien fait. Donc, au moins comme ça, c'était plus rapide. Mais après, petit à petit, j'ai essayé de me trouver des challenges qui étaient hors du tennis, essayer de progresser dans mon physique sur des aspects où qu'il fallait que je progresse. Donc, j'en avais parlé avec mon préparateur physique, Xavier Moreau. Et puis, petit à petit, je me suis motivé comme ça. Et puis, le fait de bien me sentir physiquement, ça m'a, comme tu le sais, quand tu commences à bien te sentir, t'as envie de faire plus. Et petit à petit, je me suis remotivé. Et le fait, pour le tennis, le fait de maintenant avoir une date et de savoir quand c'est qu'on va reprendre, ça m'a aidé à avoir envie de repartir jouer au tennis, parce que avant ça, c'était difficile pour moi.
On va parler plus tard de la suite de la saison et de la programmation. Tu es aussi directeur de tournoi d'un challenger à Pau. Tu t'intéresses à plusieurs choses, hein. Tu adores l'art, tu es un peu entrepreneur avec cette direction de tournoi. Comment être solidaire avec les joueurs du circuit secondaire en challenger?
C'est une bonne question, ça. Je pense que quand t'es dans le circuit challenger, c'est pas facile du tout.
Ouais.
Parce que tu joues très bien en tennis. Malheureusement, la différence d'argent entre le tour et le circuit challenger, il y a une énorme différence. Donc, financièrement, c'est toujours difficile pour les joueurs en challenger. C'est aussi difficile d'avoir une équipe ou d'avoir un entraîneur pour eux. Donc, souvent, tu perds du temps aussi d'être tout seul. Et moi, je trouve que par rapport au niveau de jeu des gars en challenger si on compare par d'autres sports, c'est sûr qu'il n'y a pas assez d'argent dans le tennis à ce niveau-là, parce qu'il y a des joueurs qui sont entre 100e mondial et 250, 300e mondial qui jouent très très bien au tennis, mais pour eux c'est difficile et ils ne vivent pas de notre sport, et ça c'est dommage.
Est-ce que pour toi la solution viendrait d'un plus grand partage des prize money, notamment se remporter dans les grands chelems, que ça ruisselle plus vers le bas, ou alors que la part des prize money et la part de l'argent distribué soit plus grande?
Je pense un peu des deux. Je pense que déjà en grand chelem, on pourrait essayer de donner déjà plus d'argent pour les joueurs qui jouent les qualifs. Déjà, si on leur donne plus d'argent, tous ces joueurs que j'ai cités, sur quatre tournois du grand chelem, déjà, ça pourrait leur permettre d'avoir assez d'argent pour payer leur saison et avoir un entraîneur avec eux s'il y avait plus d'argent dans ces tournois-là. Et puis après, je pense que ça serait bien d'avoir aussi plus d'argent au total dans les challengers pour pouvoir qu'il y ait plus de 100 joueurs qui vivent du tennis. Et je pense que ça serait logique. Et je pense que les gens ne s'intéressent pas aussi assez parfois aux challengers. Moi, je vois en ayant créé mon tournoi.
Ouais.
Quand les gens sont venus la première année au tournoi, ils étaient épatés par le niveau de jeu, et en fait, ils pensaient que ils avaient l'impression que, parce que le gars était 150e, il jouait pas forcément très bien au tennis. Et en fait, ils se sont rendus compte que visuellement, il y a aucune différence avec un joueur bien mieux classé. Après, le joueur mieux classé va être plus régulier dans l'année, va mieux jouer les moments importants, mais en termes de frappe, en termes de vitesse, c'est exactement pareil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent pas assez, et en fait, qui savent pas le niveau de jeu le niveau de jeu est très très bon. Donc, je pense que les gens devraient le découvrir plus.
Je fais une petite parenthèse. Pourquoi tu as voulu créer un challenger à Pau?
En fait, c'est très simple. Pau, c'est ma région. C'est là où j'ai vécu depuis que je suis tout petit. Et en fait, on est parti. J'avais eu une réunion avec plusieurs personnes de la ligue. Et en fait, on se posait la question, comment c'est possible que qu'on ait de moins en moins de joueurs qui jouent bien dans la région. Mmh. On a aussi moins de licenciés. Et en fait, pour moi, s'il n'y a pas de haut niveau et que les jeunes ne peuvent pas rêver, c'est difficile de leur donner envie de jouer au tennis. Et donc, moi, je me suis dit, ça serait bien de ramener le haut niveau dans la région. Et donc, j'ai dit, il faudrait essayer d'organiser un tournoi. Donc, on m'a dit, si tu l'organises, on t'aidera et on sera derrière toi. Donc, petit à petit, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant un an et demi sur le projet. J'ai été voir la ville, j'ai été voir un peu tout le monde pour voir s'il y avait des personnes qui étaient prêtes à m'aider. J'ai trouvé mon sponsor principal avec Terrega qui a adoré l'idée et qui m'a suivi sur 3 ans. Mes sponsors personnels qui m'ont aidé aussi. Et petit à petit, on a monté le tournoi. Et pour moi, c'était important, un, d'amener le haut niveau et deux, grâce au tournoi, essayer d'organiser plein de choses avec les jeunes autour de ce tournoi, faire venir les clubs, faire venir tous les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir essayé le tennis ou d'avoir vu le tennis. Et du coup, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a créé le tournoi.
Quand on t'écoute parler, on sent qu'il y a un vrai cheminement, il y a une vraie logique d'un, on apporte le tennis dans des territoires en France, du tennis de haut niveau, où il n'y avait pas forcément de tennis de haut niveau. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie pensée pour les autres joueurs. On a vu d'autres réactions pendant ce confinement, que ce soit un joueur comme Opelka qui disait que les joueurs de Challenger et des circuits secondaires pendant ce confinement gagnaient de l'argent parce que ils ne jouaient pas, ils ne voyageaient pas. On a vu aussi Dominique Thiem qui aurait refusé de participer à un fonds de solidarité pour les autres joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ces positions-là?
Je pense que malheureusement, souvent les joueurs oublient vite.
Ok.
Et quand on oublie vite que tout le monde est passé par là. Tout le monde a fait des futurs. J'ai même commencé avec des satellites, moi. Donc,
donc moi aussi.
Voilà, satellite, futur, challenger. Et je pense que on est quand même très chanceux. Déjà, un, que notre métier, ça soit notre passion. Mm-hmm. Deux, on gagne bien notre vie. Donc, je pense que dans les moments difficiles, que ça soit dans notre sport ou même dans la vie, c'est bien d'essayer d'aider les autres. Et je pense que dans cette période-là, tous les joueurs qui sont moins bien classés, malheureusement, déjà que c'est difficile pour eux, ça devient encore plus difficile pour eux. Et je pense que c'était pas mal. C'est bien d'essayer de les aider. Et quand tu vois que des joueurs très bien classés qui gagnent bien leur vie sont contre ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que la vie, c'est des fois, c'est pas, il faut pas regarder que soi-même et je pense que c'est bien de partager et d'essayer d'aider le plus grand nombre et notre sport, c'est un beau sport et je pense que on a besoin aussi des joueurs qui sont moins bien classés, des joueurs qui sont en challenger et on est tous passés par là donc je trouve que c'est bien d'essayer de les aider.
Alors encore deux questions sur cette période et sur les conséquences du coronavirus. On a vu une nouveauté avec la création de l'Ultimate Tennis Showdown créé par Patrick Mouratoglou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition?
C'est une bonne question. Dans ma tête, c'est toujours un peu c'est partagé. Parce
okay.
que... Je fais quand même partie des joueurs qui aiment bien les traditions, mm-hmm. qui aiment bien le tennis avec les règles et comme il est. Donc ça c'est mon côté joueur de tennis et celui qui joue. Après j'avoue que quand je regarde parfois le tennis, je trouve que c'est un peu long et mm-hmm. que parfois les moments importants ou les moments qui t'excitent quand tu regardes, ça arrive souvent tard dans le set ou comme ça.
Ouais.
Et donc, du coup, je pense qu'il faut essayer d'apporter des changements, apporter des évolutions pour essayer d'attirer des fans plus jeunes.
Mm-hmm.
Mais après, je suis pas pour faire des changements radicaux et complètement changer les règles de notre sport. Donc, les changements, je suis pour, mais pas forcément autant.
Tu serais pour lesquels de changement, toi?
J'essaie toujours d'y réfléchir. On en parle souvent. C'est pas forcément facile parce que ce qui est sûr, c'est que les moments qui excitent tout le monde, c'est quand ça arrive vers la fin des sets, quand le set peut se finir, les tie-breaks et tout ça. Donc peut-être raccourcir un peu les sets. Après, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a trop de temps mort aussi. Je pense qu'on devrait raccourcir les changements de côté, même raccourcir parfois. Là, c'est bien parce qu'on a déjà raccourci entre les points un peu parce qu'il y avait des joueurs qui prenaient un temps infini entre les points. Mais tous les temps morts qu'on peut essayer de raccourcir, je pense qu'il faudrait le faire. Le fait d'appeler le kiné, je pense qu'on... Moi, pour moi, je trouve que ça devrait pas exister parce que si soit tu es capable de jouer et tu joues, si tu n'es pas capable de jouer, ben t'arrêtes, tu vois.
Ok,
et,
d'accord.
Je pense que sur le nombre de fois où un joueur appelle le kiné, il y a beaucoup plus de fois où c'est un appel tactique qu'un appel qui t'aide vraiment à... parce que si tu es vraiment blessé, c'est pas en 3 minutes que le kiné va te sauver. Donc souvent c'est parfois les joueurs s'en servent aussi pour couper le rythme ou pour récupérer.
Donc, bien sûr.
Je suis pas trop pour ces appels. Et, enfin moi j'essaierai d'enlever un peu tous les temps morts qu'il y a dans le tennis pour essayer que le jeu soit plus rapide et peut-être dans les jeux peut-être le 40A point décisif, c'est en double on le fait, c'est dur parce que c'est pas tu peux avoir une chance sur un point, mais au moins ça apporte un peu de quelque chose de nouveau pour le public, et je pense que c'est important de changer. Après quoi, je peux pas te le dire, mais mais je trouve que c'est important.
Bon, le tennis va reprendre ses droits. Déjà, est-ce que tu sais, toi, quel va être ton programme?
Ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de jouer. Parce que j'ai pas joué depuis l'Open d'Australie. Donc ça fait je me suis jamais arrêté aussi longtemps dans ma carrière parce que j'ai rarement été blessé. Donc ne pas jouer au tennis pendant longtemps, ça m'est jamais arrivé, et je t'ai dit au début, j'étais pas motivé et ça me manquait pas du tout, le tennis.
Ouais.
Autant maintenant ça me manque et j'ai envie de jouer, retrouver la compétition, le petit stress dans les matchs, c'est des choses qui manquent quand même, et j'ai toujours dit que j'attendrai aussi de voir l'évolution du virus, parce que j'ai pas envie non plus d'aller jouer si y a des risques.
Et donc la fin de saison, enfin, ou la saison tout entière, va être impressionnante. Ça ferait 8 semaines de suite. Tu te sens prêt à jouer les 8 semaines de suite?
Moi, je pense que c'est impossible pour n'importe quel joueur. Donc surtout d'enchaîner des tournois aussi importants, le programme est, je trouve qu'il est là pour le coup, il est même si tout le monde a envie de jouer, il est pas bien fait du tout, et pour les tournois et pour les joueurs, je pense que c'est impossible. Il y aura des joueurs qui choisiront, qui soit joueront sur dur, soit joueront sur terre, mais tu peux pas jouer toutes les semaines pendant 8 semaines des tournois aussi forts, c'est impossible.
Comment l'ATP peut arriver avec un programme aussi chargé en très peu de semaines?
Déjà, je trouve que pendant tout le confinement, j'étais très déçu par l'ATP parce que on a passé 3 mois sans avoir la moindre nouvelle de l'ATP.
Vous n'avez eu aucune nouvelle?
Non, à part les joueurs qui sont dans le board. Après, les autres joueurs, avec la plupart des joueurs que j'ai parlé, personne n'a eu de nouvelles. Donc, je trouve ça, j'étais un peu déçu parce que voilà, si t'as pas envie de le dire à la presse ou c'est ce que je trouve normal, mais au moins informer les joueurs, parce que c'est quand même notre métier, donc même pour se préparer, savoir si on a une chance de reprendre, si on n'a pas une chance de reprendre, quand c'est qu'ils pensent que le tour pourra reprendre, même si on n'est pas forcément obligé d'avoir un échange, mais au moins avoir des emails ou des trucs qui nous tiennent au courant régulièrement toutes les semaines. Donc ça, j'étais déjà déçu. Et puis après, quand tu vois le programme, j'ai été aussi déçu parce que tu vois bien qu'ils font pas attention à la santé des joueurs et à la performance quand tu fais un programme comme ça. Donc c'est un peu décevant. Après, je pense que pour eux, c'est important d'essayer de faire les gros tournois et d'essayer aussi de faire le master de fin d'année. Donc plus il y a des gros tournois qui se jouent et plus ils auront une chance de pouvoir faire un master.
On entend des rumeurs sur des joueurs qui pensent à ne pas aller jouer l'US Open. Est-ce que tu comprends ça?
Je pense qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a plus qui disent qu'ils vont pas aller jouer l'US Open que, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont y aller quand même. Donc, entre le nombre qui dit qu'il va pas jouer l'US Open et le nombre qui va pas le jouer, il y aura un énorme écart, je pense. Mais, moi, je trouve que l'US Open, ça reste l'US Open. C'est un grand chelem. Enfin, toutes les années de travail que tu fais, c'est pour jouer les grands chelems. Donc, moi, je trouve bizarre que les joueurs ne veulent pas y aller. Si c'est à cause du virus et que il y a un problème et que tu peux être malade, ça, je comprends, parce que même moi, le premier, j'irai pas s'il y a un problème. Mais quand j'entends les joueurs qui disent, ouais, je peux pas jouer parce qu'on a le droit d'avoir qu'une personne avec nous, ça me fait rigoler parce que la plupart des joueurs sur le circuit n'a qu'une personne avec eux tout au long de l'année. Donc, quand t'entends des gars comme Djoko ou Tim Cilic qui disent si moi j'ai qu'une personne avec moi, je viendrai pas parce que on peut pas être préparé, pas être à notre meilleur niveau qu'avec une seule personne. C'est un peu marrant parce que quand t'es pas aussi bien classé, tu te dis moi je fais ça toute l'année. Donc voilà, je pense que pour un tournoi, si c'est pour la santé de tout le monde et le bien de tout le monde, d'avoir qu'une personne, au moins tout le monde sera pour une fois, à égalité, et que le meilleur gagne. Après, ils sont toujours quand même plus forts, donc, si j'étais eux, je viendrais quand même jouer.
C'est un peu bizarre, je trouve, ce qui s'est passé durant cette période dans le monde du tennis. C'était une période dans laquelle, enfin, le tennis pouvait un petit peu s'unifier, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a fait tout l'inverse, qu'il s'est déchiré, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des positions, qu'il y a eu des nouvelles compétitions qui viennent en plus soit charger un programme, soit rajouter un peu de flou. C'est dommage, non?
Je peux pas être plus d'accord avec toi. Je pense que en plus tout le monde avait dit qu'on allait essayer de s'unir, que l'ITF, l'ATP, on a même entendu avec la WTA. En tout cas, on avait entendu que tout le monde voulait essayer de travailler ensemble. Ce qui était bien pour la première fois d'essayer de tous se réunir et de faire un programme cohérent et de travailler ensemble. Et comme tu l'as dit, pendant le confinement, j'ai l'impression que tout le monde a essayé de tirer l'avantage et d'essayer de faire tomber l'autre. Et s'il y avait la moindre petite ouverture pour essayer de créer son petit tournoi ou sa compétition, tout le monde a essayé de le faire. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas très bien parce que justement, ça a dispersé encore plus de gens et ça a rendu, même pour les fans, ça, je trouve que c'est encore plus difficile à comprendre quand ils commencent à voir plein de choses. Et je pense que plus ça sera simple et plus ça sera facile pour nous aussi d'attirer les fans. Donc, j'ai trouvé dommage cette période très, très malheureuse et je pense que les joueurs les plus forts aussi auraient pu être plus présent et essayer justement de servir de cette période pour essayer de faire évoluer le tennis et pas faire l'opposé.
Oui, parce que il y a eu Federer qui a lancé un tweet un peu comme ça, disant est-ce que ce serait pas le temps que la WTA et l'ATP se réunissent. Rafael Nadal on commence à lire entre les lignes qui, lui, il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'US Open parce que c'est des joueurs qui ont beaucoup de staff. Et puis, il y a eu Djokovic avec l'Adria Tour. C'est un gros couac, c'est un gros raté quand même, cet Adria Tour, non?
Oui, ça c'est sûr que c'est un gros raté. Après, je pense que c'était... c'est bizarre déjà qu'il ait organisé ça en plein virus. En plus, avec des gens, tu vois que on peut pas jouer sur le tour, on peut pas organiser des choses, on peut pas avoir plus de spectateurs, et ils ont fait complètement l'inverse. Donc, c'était très bizarre. Et je pense que tout le monde espérait que ça se passe bien, mais à un moment donné, t'es rattrapé quand même par. Ça aurait été incroyable qu'ils arrivent à faire tout ce circuit sans que personne ne soit touché par le virus. Et puis après, ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'il y a eu des règlements de compte entre joueurs, entre agents, à critiquer. Il y a eu des critiques et que sur Dimitrov, que c'est lui qui avait eu le virus en premier, qui a apporté le virus, et du coup qui a terni l'image de Nova, qui a infecté les autres. J'ai trouvé un peu dommage parce que voilà, c'est déjà tu sais pas qui l'a eu en premier, et puis même c'est comme ça, c'est pas sa faute non plus d'avoir été malade, tu vois. Donc ça j'ai trouvé aussi dommage. Après Rafa, je pense que lui, s'il joue pas l'US Open, c'est parce que dans sa tête il veut vraiment gagner Roland Garros, et du coup il est prêt à sacrifier toute la tournée sur dur pour se préparer sur sa meilleure surface et essayer de gagner Madrid, Rome et Roland Garros. Donc lui c'est plus compréhensible. Et puis Novak, je suis persuadé qu'il sera là à l'US Open. Donc
ah ouais, tu crois?
Donc Je pense qu'il y a, je l'imagine pas une seule seconde ne pas être à l'US Open.
Même s'il refuse de se faire vacciner ou.
Ouais, non, il sera là. En plus, si Roger et Rafa ne sont pas là, il sera là. Là, en plus, ça se joue les titres de Grand Chelem. Chaque titre est important pour la course à celui qui sera le plus grand joueur de tous les temps. Donc, je pense qu'ils vont pas, il va pas le rater celui-là.
Mais est-ce que même s'il gagne un plus grand nombre de Grand Chelem que Nadal et Federer, est-ce qu'il arrivera quand même à être le plus grand joueur de tous les temps? Dans le cœur des gens.
Dans le cœur des gens, non, je pense pas, parce que le problème, c'est que Roger et Rafa, ils sont trop aimés par les gens, mais aussi ils ont fait tellement de bien au tennis. Moi, je suis tellement heureux qu'ils soient là et qu'ils jouent longtemps, que Roger soit toujours là, même s'ils sont pas très généreux pour le partage des trophées avec nous. Mais bon, pour le tennis, c'est tellement bien d'avoir des joueurs qui tirent le tennis vers le haut comme ça, qui donnent une bonne image à notre sport. C'est quand même très important. Après, Novak, il joue très très bien au tennis. Hein. Il est très fort et ça sera peut-être lui le meilleur joueur de tous les temps. Mais après, il va falloir qu'il gagne le cœur des gens, et ça, c'est pas forcément gagné. Il faudra aussi qu'il gagne le cœur du public, du vestiaire. Et ça, c'est pas gagné non plus.
Ah ouais, il est très peu aimé, Djokovic.
Ouais, moi, ça va parce que comme on a le même âge. Je le connais depuis qu'on est tout petit, donc, je le connais avant qu'il soit fort et tout ça, j'ai toujours eu une bonne relation avec lui, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs dans le vestiaire qui ne l'apprécient pas non plus.
Tu as joué ces grands joueurs, tu as battu Federer, c'était en 2014, tu as battu aussi Andy Murray en 2012 à Cincinnati. Comment on se sent quand on est en face d'un Federer?
Déjà, avant de rentrer sur le court, il y a un mélange un peu d'excitation.
Ouais.
T'as envie de jouer ton meilleur match, mais aussi il y a un moment où t'es aussi stressé parce que tu sais que s'il est dans un bon jour et que toi pas dans un bon jour, ça peut vite défiler et tu peux en prendre une bonne aussi. Donc c'est toujours un mélange des deux. Après, c'est toujours des super matchs à jouer. Moi, je trouve que chaque fois que j'ai joué les meilleurs joueurs au monde, que tu gagnes ou que tu perds, t'apprends beaucoup de choses parce que si tu gagnes, c'est fabuleux. Mais si tu perds, en fait, ils te font ressortir, malheureusement, tous tes points faibles et toutes les choses que t'as à travailler pour t'améliorer. Donc, c'est aussi une bonne leçon et ça te permet aussi de savoir exactement ce que tu dois travailler pour essayer de progresser. Donc il te pointe du doigt un peu tout ce que tu as à faire mieux. Donc c'était toujours un bon apprentissage. Et puis quand tu joues contre eux, c'est toujours des matchs uniques. Donc voilà.
Par exemple, quand tu bats Federer à Rome en 2014, tu perds le premier 6-1 et après tu gagnes en 3-7. Et quand tu perds 6-1, comment tu arrives à te ressaisir et à retourner la situation?
Je prends 6-1, je commence, je jouais pas très bien, lui jouait très bien, donc il y avait zéro match. Le début du second, ça peut enchaîner, mais j'arrive à m'en sortir un peu par miracle. Et puis petit à petit, il se mélange un peu, il se frustre un peu parce qu'il était beaucoup plus fort et il n'arrive pas à faire ses occasions. Et ben, petit à petit, tu vois, tu te relâches, tu te dis bon, mais je suis dans le score. Mm-hmm. Donc pour moi, dans le second set, le but c'était de rester dans le score avec lui, de garder surtout mes jeux de service,
ouais.
Et de tenter des choses sur les jeux de retour. Et petit à petit, je reste avec lui, et puis je me retrouve à gagner le deuxième set. Et puis après, troisième set, ben, tout était à refaire. Et j'ai d'un coup, je me suis mis à être en confiance et me dire ben pourquoi je pourrais pas gagner, tu vois. Donc, j'ai continué et puis j'ai quand même sauvé balle de match, mais j'ai fini par gagner. Après, ce qui est marrant, c'est que quand tu joues des joueurs comme ça, t'as pas une personne dans le public qui est pour toi. Donc, ce jour-là, à part mon coach qui était pour moi, tous les autres, il y avait personne d'autre pour moi.
Donc, t'as fini par gagner 1-6, 6-3, 7-6 pour rappeler le score aux gens qui nous écoutent. Je vais trahir un secret de fabrication pour cette émission. Au moment de décider de l'heure de notre enregistrement, tu m'as dit que ça pouvait être très tôt car tu te lèves à 6 heures du matin pour ton fils. Ça fait quoi d'être papa?
Bah, c'est fabuleux. C'est un moment unique. Je pense que le moment de l'accouchement, c'était... j'ai jamais vécu des émotions aussi fortes. C'était quelque chose d'incroyable. Quand j'ai pris mon bébé dans les bras pour la première fois, ben, tout le monde m'avait dit c'est impossible à expliquer. C'est vrai, c'est impossible à expliquer. L'amour que tu as pour ton fils, ben, je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un autant. Donc voilà, c'est fabuleux. Mais après, il ne faut pas oublier quand même que c'est beaucoup de boulot aussi, parce que souvent, on dit que les côtés positifs, mais ouais. Quand tu dois te lever toutes les nuits et que tu ne dors pas, c'est pas aussi facile que ça. Mais non, c'est quelque chose d'incroyable d'être papa, d'avoir sa famille. Voilà, c'est nouveau, c'est une vie nouvelle pour moi, pour ma femme, mais on le voulait, on l'attendait depuis un moment, donc on est très heureux qu'il soit avec nous, et puis j'ai hâte qu'il évolue et de lui apprendre des choses. Donc c'est encore plein de moments à vivre avec lui qui vont être incroyables.
Tu appréhendes les moments où tu vas devoir repartir sur le circuit et le laisser, ou alors qu'il va voyager avec toi partout?
Mais en fait, déjà, je suis jamais resté autant à la maison de ma vie depuis que j'ai 18 ans, je pense, parce qu'avec le confinement. Donc, depuis qu'il est né, j'ai été chaque jour avec lui, à part un, puisque j'ai fait l'aller-retour à Indian Wells. Mais, tous les autres jours, j'étais avec lui. Donc, j'appréhende le moment où je vais partir aux États-Unis, parce que je sais que je vais partir pour au moins 4 semaines.
Ouais.
Et là, ça va être nouveau parce que ils vont pas venir. Parce qu'on ne veut pas qu'ils voyagent encore du virus et tout ça. Donc, ils vont rester à la maison. Et du coup, ça sera une nouvelle sensation pour moi d'être loin de lui. Ça va être difficile au début, je pense. Mais après, c'est ma vie aussi. Donc, ils ne vont pas voyager toutes les semaines avec moi. Donc, on essaiera qu'ils viennent le plus souvent possible. Mais il faut que j'apprenne aussi à être loin d'eux. Et continuer à faire mon métier, donc voilà, ça va être nouveau. Mais j'avoue que je suis un peu stressé par l'idée de partir. J'en ai déjà parlé avec ma femme. C'est pas le moment que j'attends le plus de devoir prendre mes bagages et sortir de la maison et lui dire au revoir. Ma femme m'a dit t'as jamais pleuré pour moi quand t'es parti. Je suis sûr que tu vas pleurer pour lui. Ce qui est possible.
Tu as ta vie de joueur de tennis, c'est une vie particulière. Et là, tu as découvert, tu le disais, une vie d'homme un peu plus normale, de sédentaire à la maison. C'est difficile d'allier les deux.
C'est vrai que notre vie, elle est à la fois fabuleuse et à la fois difficile, parce que même si on est toute l'année en voyage et entouré de beaucoup de monde, on est aussi tout seul. Mmh. Donc parfois, c'est difficile. Quand là je me suis retrouvé à la maison, les premières semaines c'était très bizarre, parce que ça m'était pas arrivé de rester comme ça sans bouger, et je savais que ça allait durer longtemps, donc c'était particulier. Et petit à petit, en fait, j'ai adoré à ce moment-là d'être à la maison, pouvoir profiter, avoir une vie complètement normale comme la plupart des gens, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que le fait d'avoir mon fils, ça m'a aussi aidé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre ce moment-là. Donc voilà, maintenant, il va falloir que je reparte sur le tournoi, mais au moins, j'ai vu ce que c'était d'être à la maison tous les jours, et j'ai plutôt adoré ça. Donc voilà.
Tu as parlé de cette solitude qu'on a quand on est joueur de tennis. Faut aimer la solitude, non?
Oui, je pense que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. C'est que on a l'image du joueur professionnel qui est sur les tournois, qui a beaucoup de gens autour de lui. Il y a les fans, il y a l'équipe, il y a les autres joueurs et tout ça. Mais quand on est sur le circuit aussi, il y a beaucoup de moments où on est tout seul. Tu voyages, il y a beaucoup de moments libres. Et parfois, c'est pas si facile que ça à gérer. Parfois, c'est long. T'as envie d'être avec ta famille. T'as envie de voir tes amis. Même des choses simples de la vie. Pouvoir aller au mariage de ton ami, à son anniversaire. pouvoir organiser quelque chose avec tes amis. On va se faire un week-end là ou comme ça. Ça, c'est des choses que tu peux jamais faire. J'ai raté la majorité des choses importantes des personnes proches de moi. Donc, voilà, c'est pas facile parfois.
Qu'est-ce qui te manque le plus dans la compétition?
Justement, la compétition, le fait de rentrer sur le terrain. Après, ça va paraître bizarre, mais le stress d'avant-match, la tension, le fait de se préparer, de rentrer sur le court, de devoir trouver des solutions sur le court, tu connais la sensation, c'est quelque chose d'unique. Quand tu as un peu mal, tu le sens au ventre avant de jouer, tu as peur, tu es excité, tu es tendu, il se passe plein de choses. C'est une sensation qui est unique. Et puis après, quand tu es sur le court et que tu gagnes, la joie d'une victoire, c'est fabuleux. La défaite, parfois, peut être très dure aussi. Donc voilà, mais il y a plein d'émotions. On est toujours dans les émotions quand on est joueur de tennis. Il y a beaucoup des hauts, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est jamais, c'est jamais une ligne droite, une saison de joueur de tennis. Et je pense que on aime tout ça, même si parfois c'est difficile, c'est quelque chose qui nous manque après quand t'arrêtes de jouer. Quand tu parles aux anciens joueurs, la compétition, le stress, les victoires, les défaites, ça manque à tout le monde quand même à la fin de la carrière. Donc, je vais essayer d'en profiter encore le plus longtemps possible.
Il y a la tension dans le vestiaire aussi.
Ouais, dans le vestiaire, tu vois les joueurs qui vont se préparer pour aller jouer, les joueurs qui ont gagné leur match ou qui jouent pas ce jour-là, c'est pas la même attitude, c'est pas la même concentration que pour le staff aussi. Le staff qui t'entoure, c'est pas pareil. Donc voilà, on a chacun notre routine. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir comment chacun se prépare. Chacun est différent avant le match. Il y en a, ils vont pas parler du tout. Il y en a, ils ont besoin de parler beaucoup justement pour évacuer leur stress. Donc c'est assez particulier. Et c'est vrai que la sensation du vestiaire, c'est quelque chose qui est surtout en grand chelem. J'adore ça parce qu'on est vraiment tous là. Et il y a des joueurs qui regardent les matchs, qui regardent les autres matchs. Il y a ceux qui se préparent, ceux qui jouent pas. Il y a une sensation particulière dans le vestiaire, mais j'adore ça, être dans le vestiaire.
Bon, en tout cas, on a hâte de vous retrouver très vite, là. C'est à partir du 14 août.
Ouais, mais je pense que tout le monde attend ça avec impatience, que ce soit les joueurs, que ce soit les fans de tennis. Donc voilà, on va espérer qu'on puisse jouer aussi, parce que c'est pas encore sûr à 100%. Hein. Donc, on va prier que ça se passe bien et qu'on puisse reprendre le 14 août et qu'à partir de là, on puisse jouer toute la fin de la saison.
Ça me paraît bien pour terminer cet échange. Merci beaucoup, Jérémy Chardy.
Ben, merci à toi.
Et puis à très bientôt sur les cours, on espère.
Oui, j'espère. Avec plein de victoires.
On l'espère pour toi. Et génial la chambre de ton fils.
Merci.
Quelle simplicité chez Jérémy Chardy. Je suis toujours surpris quand je sors d'un enregistrement. Je crois connaître mon invité et il me donne toujours quelque chose en plus. C'est à ça que sert échange. Mieux connaître ces gens hors normes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser vos commentaires et vos suggestions. Je lis tout ça avec grand intérêt. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.